France Inter, le 18-20.
On continue ce soir de tirer les leçons de la crise du coronavirus. On l'a déjà fait avec des médecins, des philosophes, des sociologues, des psychologues, des économistes, des historiens, des écologues. Ce soir, on va aller encore plus loin dans notre réflexion et remonter le temps avec le paléo-anthropologue Pascal Pic, avec nous jusqu'à 19h. Il nous dira si cette crise qui vient de paralyser pendant 2 mois une bonne partie de l'humanité est un soubresaut de l'histoire ou un avertissement. Il nous dira également ce qu'il a pensé de la façon dont nous autres, les humains, avons géré cette séquence. Est-ce que cela dit de nos sociétés ? Nous serons aussi en ligne avec Arnaud Mercier, qui enseigne la communication politique, pour tenter de comprendre comment ceux qui nous dirigent ont géré cette crise et comment ils tentent maintenant d'en sortir. Également au sommaire de cette émission, préparée par Virginie Rouzic et Pierre Destertaine, notre rubrique Heureux déconfiné. Ce soir, grâce à Antoine Lee, nous irons à la rencontre d'un chauffeur de taxi. À 19h, le journal de Pierre Veil. À 19h20, au téléphone sonne. Après l'Odyssée de l'espèce, l'Odyssée de l'espace. Nous reviendrons sur le lancement réussi de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Premier voyage habité dans l'espace commercialisé par une société privée, celle du milliardaire Elon Musk, qui ne compte pas s'arrêter là. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, Margot et Siwen. Merci à Loïc Frapsos et Tristan Gratalon à la technique, ainsi qu'à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Pascal Pic.
Bonsoir Claire Servageant.
Un grand merci d'être avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages sur notamment les grands singes, l'intelligence artificielle. Dernier livre paru l'an dernier chez Flammarion, Sapiens face à Sapiens. Alors, Pascal Pic, on va évidemment évoquer dans un instant cette pandémie qui met le monde à rude épreuve, mais d'abord un mot de ce qui fait l'actualité de la semaine aux États-Unis, mais ici aussi en Europe et notamment en France. Cette question du racisme et des violences policières suite à l'agonie filmée d'un homme noir mort asphyxié après avoir été immobilisé par un policier blanc. Il y a eu un rassemblement qui a marqué les esprits mardi, puis depuis il y a eu bien d'autres rassemblements et on l'a entendu il y a quelques instants, il y en a encore ce soir. Alors Pascal Pic, est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler d'où nous venons tous, que nous ayons la peau noire ou la peau blanche ? Parce que si j'ai bien compris, nous autres, les homo sapiens, on vient tous d'Afrique, c'est ça ?
Absolument. Et en ce qui concerne le racisme, ça n'a plus du tout aucun sens aujourd'hui, bien évidemment. Et on l'a entendu d'ailleurs dans la remarque que faisait le représentant du syndicat de police. Il parlait de racisme anti-policier. Alors, le racisme, en fait, c'est catégoriser et écarter les autres. Alors, très longtemps, évidemment, il était orienté vers les populations à peau noire, mais il n'y a pas que seul. Il n'y a pas que. Si on parle des violences policières aux États-Unis, bien sûr, les jeunes noirs ont beaucoup plus de chances, entre guillemets, en termes de statistiques, bien sûr, probabilité de subir une agression, voire d'être tué. Mais par exemple, on ne parle pas du tout des Amérindiens. Les Amérindiens, donc les Américains natifs, comme on dit, un bon Américain, font aussi l'objet de beaucoup de violences. Donc voilà, il y a vraiment de gros problèmes. Néanmoins, on sait aujourd'hui que d'un point de vue de nos origines, que les origines de toutes les populations humaines actuelles, c'est-à-dire presque bientôt les 8 milliards de sapiens et de sapiennes, nous venons d'Afrique, tous. C'est en plus une origine très récente. Et au risque de vous surprendre, nous avons une très faible diversité génétique. Et Charles Darwin disait, on passe notre temps à différencier sur des aspects superficiels, alors que l'essentiel n'est pas là. Et bien évidemment, le racisme est une construction complètement idéologique, culturelle dans le mauvais sens du terme.
Qui date de quand, Pascal Pic, cette construction ?
C'est très ancien, ça a commencé avant d'ailleurs les sciences. Ça commence d'ailleurs au XVIIIe siècle, ça peut vous surprendre, au moment des Lumières, au moment où commence à se construire la pensée abolitionniste, d'abord contre la traite des esclaves et ensuite l'abolition de l'esclavage, se pose le problème émergent du colonialisme. Et comment justifier dans des pays comme les nôtres qui sont soi-disant porteurs de la pensée des Lumières, de la liberté du genre humain, du progrès, comme on le dira au XIXe siècle, comment pouvoir justifier le colonialisme et l'oppression des autres peuples. Et donc là, il s'est construit cette idée donc d'écarter le concept de race à dériver. Et après ça, soyons clairs, Claude Lévi-Strauss l'a dit d'ailleurs, il dit que le racialisme, c'est une dérive d'une partie de l'anthropologie qui veut donner une définition scientifique aux races, ça s'appelle le racialisme, et c'est le péché originel de l'anthropologie. Alors, tous les anthropologues n'étaient pas comme cela, encore moins les biologistes, d'accord, mais il est très clair que nous avons un ensemble de facteurs culturels, philosophiques, politiques, économiques, qui ont contribué à exclure, et notamment plus que tout vis-à-vis des populations africaines.
Alors vous dites, Pascal Pic, qu'il y a trois fléaux dans nos sociétés, le racisme, le sexisme et le spécisme. Et on voit aujourd'hui que tout ça, c'est terriblement d'actualité.
Mais absolument, parce que ce sont simplement des discriminations qui sont basées sur l'exclusion, sur le sexe, le genre aussi, bien évidemment. Et regardez comme le racisme, c'est ridicule. Vous le savez depuis très peu de temps, et j'en parle dans mon dernier livre que vous avez eu l'amabilité de citer. Nous savons depuis 10 ans maintenant que nous autres, les sapiens, une partie des sapiens, nous avons des gènes de Néandertal et que d'autres populations de sapiens ont des gènes d'une autre espèce qui était contemporaine de nous il y a encore 40 000 ans, qu'on appelle les hommes et les femmes de Denisova. Vous voyez, on est en train de concevoir que même au niveau des espèces, parce que c'était des espèces différentes, il y a eu quand même des transferts de gènes qu'on appelle l'introgression. Donc même l'espèce n'est pas pure, c'est complètement idiot. Alors comment ça pourrait l'être pour des races au sein d'une espèce? Donc vous voyez, on est vraiment sur des conceptions idéologiques et d'exclusion.
Alors encore une fois, on vient d'Afrique, et si on a la peau plus claire, c'est quoi? C'est parce qu'on a rencontré Néandertal? C'est ça l'histoire?
Alors il y a.
C'est là où on s'est mélangé?
Voilà. Alors non, on ne s'est pas mélangé, sinon ce serait la même espèce. Ce qui s'est passé, c'est que évidemment au départ, nous avons la peau sombre, qui est une adaptation pour justement pour protéger la peau, éviter notamment ce qu'on connaît fort bien avec les mélanomes et les cancers, etc. Par contre, les Néandertaliens, alors pour être précis, notre lignée, celle des sapiens, a une origine africaine, on l'a dit. Par ailleurs, les Néandertaliens, eux, c'est avant tout une évolution qui s'est passée en Europe et sur la Russie actuelle. On sait qu'ils sont allés jusqu'en Sibérie. Et les Néandertaliens ont acquis une peau plus claire qui permet, sous les hautes latitudes, surtout pendant les périodes glaciaires, de favoriser le passage des rayons ultraviolets qui permet de synthétiser la vitamine D. On en a parlé d'ailleurs pendant le confinement, hein. Mettez-vous à votre balcon, même 10 minutes, ça vous fera du bien pour vos os et votre vitamine D. Donc les Néandertaliens l'ont acquis par voie de sélection naturelle, c'est-à-dire que au fil de centaines de milliers d'années, les individus ayant une peau plus claire ont été favorisés. Mais il s'est pas passé la même chose pour nous. Nous sommes arrivés d'Afrique et au Proche-Orient, nous avons croisé les Néandertaliens, mais ça a duré longtemps cette affaire-là, hein, plus de 40 000 ans quand même, hein. Ça fait quand même une sacrée durée. Mais cette fois-ci, c'est par sélection sexuelle, c'est-à-dire que en ayant des relations sexuelles avec des hommes et des femmes de Néandertal, nos ancêtres sapiens ont acquis ces gènes qui sont devenus plus intéressants pour l'installation de nos populations sapiennes venant d'Afrique sur l'Europe. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'un seul chemin pour l'évolution. Et par exemple, ce qu'on appelle la race noire, mais c'est complètement ridicule, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs systèmes génétiques différents qui donnent la peau sombre. Et pour être clair, un bantou de l'Afrique subsaharienne est plus proche des Européens à peau claire, génétiquement, qu'il ne l'est, par exemple, d'un aborigène qu'à la peau sombre. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe, on l'imagine, il n'y a pas qu'un seul processus. Et la peau claire, donc, est un caractère adaptatif qui a été acquis par sélection naturelle pour les Néandertaliens, nous par voie de sélection sexuelle et ensuite naturelle.
Eh ben merci beaucoup pour ces explications, Pascal Pic. On en vient maintenant à cette pandémie qui vient de mettre une partie du monde à l'arrêt pendant ces 3 derniers mois. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à l'Homo sapiens? Il a joué avec le feu à force de proximité avec les animaux sauvages, de déforestation. C'est ça qui s'est passé, Pascal Pic?
Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore, à ma connaissance, toute l'explication entre les chauves-souris, ces pauvres pangolins et tout ce qui s'en est suivi. Néanmoins, nous aurions dû déjà être un peu prévenus avec Ebola. Ebola, donc, on sait que c'est passé par les singes en partie, mais ça vient des chauves-souris. Simplement, sur Ebola, comme c'est en Afrique, ben voilà, une fois de plus l'Afrique, c'est une région où il n'y a pas de grand commerce international, enfin pour l'essentiel des régions où sévit Ebola. Et en plus Ebola, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais Ebola frappe très vite. C'est-à-dire qu'il tue rapidement, il est très méchant. Et de fait, les personnes meurent avant de rentrer beaucoup en contact avec d'autres personnes. Pourtant, on savait que ça fonctionne comme cela, mais on n'a pas voulu en tenir compte. En ce qui concerne le Covid-19, là, c'est une vraie vacherie. Pourquoi? Parce que on a des activités traditionnelles si c'est bien cette histoire de chauves-souris et de pangolins, qui sont liées d'une part à des pratiques de chasse et alimentaires avec les chauves-souris, qui sont très anciennes pour ces populations de cette province de Chine. En plus de ça, le pangolin, notamment ses écailles, rentrent dans des traditions de la pharmacopée chinoise. Il faut savoir que, par exemple, les médicaments qui étaient dérivés des écailles de pangolin étaient remboursés par l'équivalent de la sécurité sociale chinoise jusqu'au 1er janvier cette année. Et là, évidemment, ça s'est arrêté. Mais alors, jusqu'à présent, ça ne touchait que très peu de populations. Peut-être que des populations de cette région avaient déjà été touchées par des coronavirus, mais ces populations se déplaçaient peu. Et puis voilà que la mondialisation et les développements absolument fulgurants de l'économie chinoise, qui est beaucoup plus en avance qu'on l'imagine par rapport à nos représentations en Europe, eh bien, d'un seul coup, des traditions locales se sont trouvées connectées à un monde complètement mondialisé où ça se déplace très vite. Et à partir de là, donc, c'est une conséquence de l'économie, de la mondialisation. Alors, je suis pas anti-mondialisation, c'est pas ce que je veux dire, mais on l'a très mal pensé et très mal méprisé. Et donc, voilà ce qui se passe. C'est une leçon qui, malheureusement, nous payons extrêmement cher, beaucoup trop cher. Et la plupart des évolutionnistes, des biologistes, le pensaient. Dans mon dernier livre, je le dis... Quand on parle d'évolution, qu'est-ce qui nous amène à nous ou les autres espèces à changer? La première idée qui vient, c'est une grande catastrophe naturelle. Vous savez, comme l'histoire de Jurassic Park avec un météorite ou les volcans. Ok, ça, ça arrive. La deuxième chose qu'on commence à bien comprendre, c'est que nous n'évoluons pas seuls, nous co-évoluons. Et il se trouve que toutes les populations du monde, dans leurs écosystèmes respectifs, ont co-évolué avec donc les agents pathogènes de leurs écosystèmes, ce qui était certainement le cas dans la province de Hubei, donc en Chine. Et la troisième raison, alors ça on a beaucoup de mal à le comprendre, c'est le succès. Et oui, le succès. Vous m'avez dit qu'est-ce qui arrive à Sapiens? Eh ben, c'est son succès, et le succès a des conséquences. Je suis un baby boomer, et je suis d'une génération qui a connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. 25 ans d'espérance de vie, liberté, santé, liberté affective, évolution sociale, progrès dans le monde du travail. Enfin, on n'a jamais connu ça, et tous les pays, pas tous encore, nous rattrapent. Et à partir de là, donc, la population mondiale a été multipliée par 3 depuis que je suis né. Alors, d'un point de vue strictement darwinien, on pourrait dire, ah ouais, mais quel succès! Sauf que, plus on a de succès, plus on détériore l'environnement dans lequel on a eu du succès. Et nous autres, les évolutionnistes, nous le clamons depuis longtemps, attention, cette expansion extraordinaire de Sapiens va nous conduire à des difficultés qu'on ne peut pas imaginer, mais que nous renvoie l'environnement. Et c'est pour cette raison qu'on parle évidemment, d'une manière beaucoup plus sensible, des problèmes d'écologie, des problèmes d'écosystème, de problèmes d'écoévolution. Et en plus de ça, c'était un peu le sens de votre question, j'appartiens à une génération, en tout cas pour les pays qui sont les nôtres, qui n'a connu ni guerre, ni catastrophe naturelle, ni épidémie majeure. Donc, ce succès extraordinaire, et de cette manière, tant mieux, a des conséquences. Et aujourd'hui, ces conséquences, il y en a 3. C'est le dérèglement climatique, l'effondrement des écosystèmes, et aussi donc ces maladies dites émergentes.
Bien sûr. Alors un mot, Pascal Pic, de la façon dont on a réagi à ce qui nous est arrivé. On a, pour la moitié de l'humanité, on a décidé un confinement, évidemment avec toutes les conséquences dont on a parlé. Puis on a dû s'adapter à ce confinement. Est-ce que ça, c'est une péripétie de l'histoire ou c'est quelque chose qui aura des conséquences pour nous tous?
Alors, c'est pas une péripétie de l'histoire parce que depuis que les hommes voyagent, les quarantaines ont toujours existé. Les populations d'Océanie à l'époque de James Cook ou des grands navigateurs français, la Pérouse, etc. Les indigènes, au vrai sens du terme, donc qui habitaient sur les îles, quand ils voyaient les voiles blanches arriver, ils disaient la mort va arriver sur nos plages. Et puis, donc ces histoires de quarantaine sont très très connues depuis longtemps. L'histoire de Marseille, la dernière grande peste importante qu'on a eue à Marseille, on a complètement isolé.
Donc, ce que je voulais dire, Pascal Pic, pardonnez-moi, oui. C'est ce qu'on a fait, on s'est donc confiné, puis alors oui. On a utilisé de nouveaux outils, le numérique, le télétravail. Ça va changer quelque chose ou pas à long terme?
Oui, alors ça va changer beaucoup de choses, je l'espère, parce que, alors d'une part, moi je rends hommage vraiment à l'ensemble des populations européennes, et d'autres d'ailleurs, chinoises ou autres, par rapport à l'Amérique, parce que les jeunes ont accepté de se confiner. Et pourtant, les jeunes n'ont aucune mémoire ou connaissance de ce que c'est qu'une telle situation. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même globalement un grand esprit civique, surtout que au départ, ça avait pour l'Europe, c'était en Italie, ça touchait les hommes de plus de 80 ans. Et les jeunes ont consenti, le consentement, donc c'est le consentement démocratique à cela. Maintenant, sur le changement, évidemment, Il y a, là je reprends une expression de mon ami le philosophe Francis Wolff de Normal Sup. Il dit, le confinement nous a amené à peut-être nous éloigner un peu de ceux qui sont proches et nous rapprocher de ceux qui sont loin, notamment avec les réseaux. Là, ça a été quelque chose de très important parce que ça touchait ce confinement tout de même avec des termes comme distanciation sociale. C'est terrifiant, distanciation sociale. Ça va exactement à l'encontre de ce qui fait l'évolution des mammifères, plus encore des singes, plus encore des grands singes, et plus encore des humains. Puisque nous avons un gros cerveau qu'on appelle un cerveau social, et pour nous, le contact avec les autres, ce qu'on appelle l'épouillage chez les singes, être proche des autres, les toucher, discuter avec eux, sont complètement au cœur des fondements de nos sociétés. Et je trouve qu'on s'en est quand même pas mal sorti. Et grâce au réseau, j'espère que nous allons revenir un petit peu sur un meilleur équilibre, sur des abus que l'on avait, sur des moments extrêmement importants de nos vies sociales, familiales, amicales, professionnelles, où nous avions tendance à couper des éléments comme le repas, une discussion, regarder un film ensemble, ou même au spectacle, comme vous le savez, ce qui est quand même extrêmement agaçant. Et ce que j'espère, moi, c'est que ces réseaux qui ont permis aussi aux personnes qui étaient confinées dans des endroits un petit peu restreints, d'avoir des contacts avec d'autres personnes qui connaissaient, de s'ouvrir à d'autres mondes, c'est-à-dire de sortir un petit peu de ce confinement forcé et donc de la proximité imposée dans des endroits, souvent des appartements exigus. Donc, comment retrouver un équilibre intelligent entre cette capacité d'utiliser réseau qui apporte des éléments, des choses absolument extraordinaires, et puis refonder, retrouver l'importance ressentie, évidemment, du manquement qui est du contact avec les autres, notamment même des choses toutes bêtes, hein, vous savez, ce qu'on appelle la communication fatigue, hein, parler de la pluie, du beau temps avec les voisins, quand on balade son chien, avec la boulangère, le boulanger. Eh bien, j'espère que ça va réinstaller, refaire comprendre l'incité de cela, et puis d'un meilleur usage, effectivement, de ces moyens de communication. Alors, qui ont aidé, mais qui doivent maintenant être intégrés dans une approche plus anthropologique.
Évidemment. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ceux qui nous dirigent, de la façon dont les politiques ont géré cette crise, Pascal Pic. On sait que vous aimez bien les comparaisons avec les singes. Hein. Vous vous étiez amusé il y a quelques années à comparer les hommes politiques avec les différentes espèces de singes. On va en parler, mais on va d'abord accueillir Arnaud Mercier, qui est professeur de communication politique à Paris 2. Bonsoir Arnaud Mercier. Êtes-vous là? Oui, vous êtes là, c'est parfait. Un grand merci d'être avec nous. On va parler du comportement de nos politiques pendant cette crise, de la façon dont ils ont géré les pénuries sans vraiment l'avouer. Mais je voudrais que d'abord on écoute le ministre de la Santé, Olivier Véran, à propos des masques. On n'en avait pas, enfin si ou plutôt non, disons que pas forcément au bon endroit, au bon moment. C'était le 10 mars dernier, le ministre de la Santé était l'invité de nos confrères de France Info.
Je fais le maximum au quotidien avec une équipe fortement dimensionné pour acheter des masques partout où c'est possible d'en acheter, parfois avec un certain succès. Nous sommes en train d'avoir une répartition des masques. Nous avons un plan pour pouvoir tenir dans la durée.
Aujourd'hui, il y a encore une pénurie de masques.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques, et fort heureusement d'ailleurs. Et nous avons, je vous le rappelle, été le seul pays au monde à avoir fait une réquisition complète de tous les stocks de masques et de tous les sites de production de masques. Et nous sommes capables d'avoir une gestion et un pilotage par l'État de tous ces masques dans la durée. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'on déstockait massivement des millions de masques, eh bien, il y a des gens qui allaient chercher des masques qui n'en avaient pas besoin. Donc ensuite, j'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques pour toute personne qui ne relève pas d'une prescription ou qui n'est pas un professionnel de santé.
Arnaud Mercier, que dire de ce discours qu'on a entendu sur les masques? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et là, franchement, ce n'était pas vraiment le cas.
Si on est un peu vulgaire, je dirais qu'ils nous ont vraiment pris pour des cons. Parce que vraiment, on sent bien que au plus haut niveau de l'État, ils ont été très très embarrassés parce que ils voulaient pas avouer que cette question des masques était un problème, puisque ils n'arrivaient pas à admettre que une position de faiblesse, finalement, vis-à-vis de la population, consistant à dire, bah oui, c'est vrai, nous n'avons pas préparé, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour être prêts au moment opportun. Il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises. Et à partir de là, ils se sont enferrés dans un discours. Et quand on voit aujourd'hui le contraste, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, bon, ben, on peut déconfiner, c'est bon, vous pouvez circuler, à condition que vous ayez le masque. Alors que, il y a 3 mois, ils nous disaient, mais vous n'avez pas besoin de masque, parce qu'un masque, ça sert à rien. Et la porte-parole du gouvernement nous expliquait même qu'il fallait pas en mettre parce qu'on savait pas s'en servir. Donc, on voit comment, en 3 mois, ils sont passés du tout à rien. Et on pourra pas nous expliquer que c'est parce que, en 3 mois, on a découvert le vrai fonctionnement de la maladie, parce que ça reste une maladie pulmonaire, et donc une maladie pulmonaire, en Asie, ça fait des décennies qu'ils mettent des masques. Donc la question ne se posait pas en ces termes. Et je crois que là, il y a eu une erreur de communication politique magistrale, et qui, en plus, colle comme un sparadrap maintenant à l'exécutif, parce que on a eu le sentiment que, effectivement, ils mentaient, pour la bonne cause peut-être, hein, histoire de pas paniquer les gens en disant, on aurait dû vous dire mettez des masques, mais comme il y en a pas, on peut pas vous donner une injonction contradictoire. Mais en attendant, ça a ruiné profondément la crédibilité de l'exécutif pour tout un tas d'autres points dans la gestion de cette épidémie. Et donc, je pense que c'est un point fondamental qui explique aujourd'hui pourquoi beaucoup de gens n'ont pas confiance dans l'exécutif, dans sa façon de gérer la crise, alors que sur certains nombre d'autres décisions, la France a sans doute pas si mal agi que ça. Mais là, vraiment, il y a eu une erreur tragique, à mon sens.
Que penser du partage des rôles entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Parce que on a eu des déclarations très très solennelles du président de la République à la télévision au début, avec des scores d'audience d'ailleurs assez impressionnants. Depuis, beaucoup moins. Et puis alors, la semaine dernière, on a vu le chef de l'État qui est allé présenter un plan de relance pour l'automobile, pendant que le Premier ministre, lui, il présentait la phase 2 du déconfinement. C'est quoi cette répartition, Arnaud Mercier? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans?
Oui, je pense qu'il y a une logique profonde. C'est le retour à l'esprit originel de la Ve République, dans lequel le président fixe un certain nombre de grands caps, et puis on laisse le Premier ministre pousser les wagonnets au fond de la mine, aller au charbon, pour ne pas trop exposer le président. Et d'une certaine façon, le président de la République, au départ, a voulu se mettre très en avant. Il a vu que sa popularité en souffrait, pour les raisons que je venais d'indiquer notamment, et que du coup, il est revenu à l'esprit de laisser le gouvernement gouverner, donc être un peu dans le micro-détail de tout ça. Lui, il donne les grandes perspectives. Alors, il s'attribue, si vous voulez, les choses les plus favorables, comme par exemple un plan de relance pour l'automobile, l'industrie nationale, etc. Et puis, c'est au gouvernement de s'occuper de l'intendance, aurait dit le général de Gaulle en son temps. Et je pense que là, ça correspond quand même profondément à l'esprit de la Ve République de ce point de vue, et que Emmanuel Macron a senti qu'il avait sans doute intérêt à ne pas trop s'exposer sur cette affaire et à reprendre un peu de recul. Et maintenant, on le voit bien, hein, il l'a déjà dit, il va falloir se réinventer, a-t-il dit. On voit bien que lui, il est déjà dans l'après, c'est-à-dire dans qu'est-ce qu'on va faire maintenant, comment refonder un peu les choses sur le plan politique, économique et social sur les 2 ans qui lui restent avant la fin de son mandat et sa probable candidature à une réélection, parce qu'on voit bien qu'il pense à ça, et il laisse finalement le quotidien au Premier ministre.
Il pense à ça aussi quand il va voir le professeur Raoult à Marseille et qu'il téléphone à Jean-Marie Bigard ? Vous êtes toujours là, Arnaud Mercier ?
Oui, là, je crois aussi ça a l'air un peu bizarre peut-être, mais pour autant, à mon avis, il y a une vraie cohérence dans tout ça, c'est-à-dire que on voit bien comment le président de la République essaye de ne pas être dissocié de personnalités qui représentent un discours, on va dire, anti-système, pour faire simple, c'est-à-dire des gens qui parlent haut et fort en prenant des positions qui sont celles de la défense supposée, en tout cas au moins du peuple, des classes populaires, du bon sens, enfin tout ce genre de discours qui peuvent être tenus. Alors que ce soit pour le traitement à l'hydrochloroxine, que ce soit la réouverture des restaurants, ou que ce soit ceci ou cela. Et là, il me semble que Emmanuel Macron a perçu très fortement que, et c'était déjà le cas avant, et c'était le cas évidemment avec la crise des Gilets jaunes, qu'il était, que lui aussi avait un sparadrap, hein, c'est-à-dire qu'il est étiqueté président des riches à cause de la réforme de l'impôt sur la grande fortune, qu'il est le président un peu trop énarque, banquier, etc., et que donc il ne doit pas laisser le terrain libre à tous ceux qui pourraient utiliser des figures comme celles que vous avez évoquées comme étant des figures d'opposition à Emmanuel Macron, du style il y a les antisystèmes d'un côté et Emmanuel Macron est le représentant suprême du système puisqu'il est le président de la République. Et donc il veut montrer qu'il ne peut pas y avoir une dichotomie entre lui, le grand représentant du système, et les antisystèmes, puisqu'au contraire, il parle avec eux, il les appelle, il les entend. En tout cas, c'est ce qu'il affirme, il en tient compte, etc. Donc il n'y aurait pas la possibilité d'enfoncer un coin, si vous voulez, entre ces deux figures qui seraient d'un côté l'antisystème par excellence et de l'autre côté le système par excellence.
Merci beaucoup Arnaud Mercier pour cette intervention. On va se retourner vers Pascal Pic qui adore la politique. Vous êtes toujours là, Pascal Pic?
Absolument.
Alors j'en reviens à ce que vous aviez fait il y a quelques années, cette comparaison entre les singes et les hommes politiques. Vous nous aviez même expliqué à l'époque, en observant Emmanuel Macron pendant la campagne, que vous aviez compris qu'il allait gagner en fonction de son comportement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand vous observez ce qui se passe?
Alors, pour être précis, j'ai pas le talent de La Fontaine, et donc je n'ai pas fait de comparaison avec les singes. Je suis allé chercher des grands sujets qui sont plus marqués chez telle ou telle femme ou homme politique, et montrer que ceci existait déjà dans d'autres espèces de singes, bien évidemment. Hein, donc il n'y a pas de caricature, et j'ai trop d'affection pour les singes, j'ai trop de respect pour les politiques, pour me livrer à une caricature qui ne serait pas de extrême mauvaise loi. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est que dans une démocratie universelle, l'épouillage, c'est-à-dire la capacité d'aller vers les gens, d'être empathique, de recevoir leur attention, de leur retourner, là-dessus, pendant la campagne présidentielle, M. Macron était absolument excellent. Maintenant, pour revenir à l'histoire du Covid, il a complètement loupé son épouillage. C'était très bien dit à l'instant entre le système et l'antisystème. À chaque fois qu'il s'est rendu dans des hôpitaux, ça s'est très mal passé. Et en fait, la crise de l'hôpital est annoncée déjà depuis longtemps, il y avait des difficultés, et au passage, bon, vous l'avez dit souvent sur votre antenne, système ou pas système, les personnels soignants à tous les niveaux ont été absolument exceptionnels, compte tenu qu'ils partaient de difficultés bien connues. L'autre chose, d'aller voir le professeur Raoult, qui est un grand virologue, que je respecte beaucoup, mais le problème, il aurait été beaucoup plus avisé d'aller à l'Institut Pasteur ou à un autre institut de recherche.
Il est allé voir d'autres personnes, Pascal Pic. Il est notamment allé le même jour dans un hôpital du Kremlin-Bicêtre, le jour où il est allé à Marseille.
Oui, il est allé dans un hôpital, mais il n'est pas allé dans un centre de recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle du rapport à la communauté scientifique. Et le dernier rapport du journal Le Lancet que vous avez commenté montre qu'effectivement, cette méta-analyse n'était pas assez concluante. Il y a des problèmes de data, etc. Mais je rappelle que du côté du professeur Raoult, on attend aussi les données. Et ça, pour l'instant, c'est pas très clair non plus. Et je trouve que c'était extrêmement malhabile, peut-être justifié d'un point de vue politique, comme ça a été dit à l'instant, mais vis-à-vis de la communauté scientifique, ça a été quelque chose de très mal perçu et qui, je crois, va poser des difficultés dans le monde médical, dans le monde de la recherche, dans le monde scientifique, parce que c'est peut-être pas mal d'aller voir des personnes comme le professeur Raoult, qui évidemment a des intuitions, mais derrière, il y a des protocoles en science, il y a des systèmes d'évaluation en science, et ceci donc n'a pas été valorisé par cette démarche qui, me semble-t-il, n'était pas propice vu... c'est très, d'une manière générale, quand un politique, quel que soit son niveau, s'intéresse à un scientifique et non pas à la politique scientifique, c'est pas bon signe.
On va poursuivre évidemment, Pascal Pic, notre réflexion sur les leçons de cette crise, celles que nous devons en tirer comme leçons pour notre société. Mais c'est dans quelques minutes le temps d'écouter un peu de musique.
Je crains de revivre sans le savoir cet instant qu'on a traversé. Où est passé ton âme? Cariño, no lo sé. Oh, donde este mundo va? Dis-le-moi s'il te plaît.
Où est passée ton âme, un disque programmé pour vous par Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageon.
Toujours en compagnie du paléo-anthropologue Pascal Pic pour tenter de tirer les leçons de la crise que nous traversons. Alors Pascal Pic, vous avez déjà parlé d'environnement tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais qu'on dise un mot de la santé publique, les leçons qu'il y a à en tirer. Déjà peut-être le fait que laisser une partie de la population sur le bord de la route n'aurait aucun sens, comme on a pu le voir dans certains pays. On est tous un des maillons de la chaîne, en fait.
Oui, alors ça, vous savez, ça ramène aussi de mauvais souvenirs. Les pays qui ont, dès le départ, envisager l'immunité collective, c'est utiliser la sélection naturelle dans ce qu'elle a de plus caricatural. Et ce sont des pays qui ont une histoire, il y a un demi-siècle, d'eugénisme. Et ça, vous voyez, c'est des Darwin très très mal compris. Et ce qui fait de nous des sociétés humaines, c'est justement la capacité, c'est ça qui fait de nous les humains, de pouvoir maîtriser ces phénomènes naturels ou ces problèmes de pathologie de telle façon que, et on l'espère, on aura des vaccins pour justement aller à l'encontre de cela. Par contre, la leçon que l'on tire de cela, c'est que nous ne sommes jamais sortis de l'évolution. Et il est vrai que au cours du siècle dernier, et surtout depuis les dernières, le dernier demi-siècle, on a connu un progrès absolument fantastique en ce qui concerne la médecine, la santé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez dû en parler sur votre antenne, on parle maintenant de médecine de plus en plus personnalisée, et médecine 4P, prévisionnelle, préventive, participative. Donc on arrivait vers une logique qui était de se dire, voilà, nous en avons fini avec ces grandes épidémies qui ont tellement meurtri les générations précédentes au cours des siècles, que maintenant on peut s'en affranchir et passer de la santé aux soins. Eh bien, bien sûr, c'est très bien de passer vers les soins, mais on voit bien que les processus qui prévalent encore pour les autres espèces prévalent chez nous, mais par contre, chez nous, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme les autres espèces, laisser faire. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne joue pas comme ça avec l'évolution, c'est extrêmement dangereux et ce sont souvent de très mauvais souvenirs.
Et sinon, il faut noter que certains ont été en première ligne, les soignants, bien sûr. Je crois que votre fille est médecin, d'ailleurs, hein, Pascal Pic.
Et oui, médecin réanimateur, elle a eu le Covid, bien évidemment.
Il faudra savoir se souvenir de ce qu'ont fait les soignants.
Alors, très clairement, vous savez, j'ai parlé de sélection naturelle. Si on veut illustrer dans nos manuels ce qu'est la sélection naturelle, le Covid-19, c'est exactement ça. Il a frappé partout où il y avait des faiblesses. Les personnes faibles, âgées, avec des comorbidités. Il a frappé là où les sociétés étaient les plus inégalitaires. Moi, j'aime citer dans mes conférences le professeur Angus Deaton, prix Nobel d'économie, spécialiste de la santé, avec son épouse, Madame Hankes, qui est rarement citée. Et ils ont écrit des livres formidables, dont un qui est « La mort du désespoir ». Et ils avaient montré qu'aux États-Unis, le déclassement social que l'on voit bien, dont on voit bien les effets extrêmement dramatiques à l'heure actuelle, sont aussi une source de mauvaise santé. Et donc le Covid-19, il est sorti comme ça d'un coin de la Chine et il est venu frapper là partout nos sociétés étaient ont failli en termes d'accès aux soins, d'égalité et autres. Et puis surtout la grande leçon, et je crois que le président Macron l'a dit, et ça c'est très bien, il va falloir qu'on repense quand même, hein, aux personnes qui sont au premier rang, les médecins. Mais attendez, moi je veux dire, c'est une leçon de management, de ressources humaines. Regardons ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Des aides-soignants, infirmiers, infirmières, médecins, chefs de service, ils ont trouvé des tas de solutions, ce qu'on appelle le bricolage, qui est au cœur de l'évolution, absolument extraordinaire. Mais d'une manière générale, les postiers, les éboueurs, les policiers aussi, bien sûr, qui étaient en première ligne pour les contrôles nécessaires, toutes les personnes qui sont au contact de nous dans la vie de tous les jours, eh bien ce sont les personnes qui étaient les moins bien payés, les moins reconnus. Et je crois qu'il va falloir comprendre que un écosystème, une pyramide, une société ne peut tenir que si sa base est solide. Et le Covid virus a montré que même chez nous, où c'est beaucoup moins inégalitaire qu'aux États-Unis notamment, eh bien, nous avons vraiment à repenser nos sociétés et aux questions d'équité et d'utilité.
Alors justement, Pascal Pic, vous me faites ma transition et c'est très bien parce qu'on en arrive à notre rubrique heureux déconfiné. Parmi ceux qui n'ont jamais cessé de travailler mais dont l'activité a fortement chuté pendant le confinement, il y a les chauffeurs de taxi. Ils attendaient avec impatience la phase 2 du déconfinement après deux mois particulièrement difficiles. Ce soir, Antoine Lee, vous nous emmenez à la rencontre de l'un d'entre eux. Bonsoir.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Alors je suis allé à la rencontre de Massy. Il est chauffeur de taxi à Paris depuis plus de 10 ans. Après les attentats, les gilets jaunes, puis la grève, il doit faire face à la crise sanitaire. Sa compagnie a très rapidement mis en place des mesures de sécurité pour se protéger du virus, ce qui m'a permis de monter à l'arrière de son taxi.
Vous, Massy, quelles sont les mesures sanitaires que vous avez prises à cause du Covid ?
J'ai mis une bâche amovible.
Elle nous sépare, là ?
Exactement, elle nous sépare, justement, pour une protection. Elle est souple, donc s'il y a un accident, donc elle risque pas de casser comme un plexi qui pourrait être tranchant. Suite à ça, bah, vous avez juste devant vous aussi du gel hydroalcoolique. Puis j'ai mon gel à moi personnel. Et d'ailleurs, si vous regardez, j'ai mis le meilleur pour les clients. Cela, ça vient des hôpitaux. Et moi, j'ai pris un désinfectant banal. J'ai à disposition des masques. Moi, ils sont juste là. Hop.
S'il y a plusieurs passagers qui arrivent en même temps, vous pouvez les prendre, s'ils sont deux, ou vous limitez à un passager ?
C'est 3 personnes maximum. Je peux pas mettre 2 personnes devant.
À côté de vous, c'est pas possible ?
Impossible, pour le moment.
Est-ce que vous posez des questions lorsqu'un client monte dans votre taxi, savoir s'il a de la fièvre, s'il tousse ?
Alors je demande, est-ce que, effectivement, ça s'est bien passé, par exemple, le confinement ? Est-ce qu'ils ont eu des petits soucis ? Est-ce qu'ils vont bien ? Et ils me posent exactement les mêmes questions. Forcément, que quand une personne tousse, avant, on faisait pas trop attention. Aujourd'hui, quand une personne tousse, on va dire on a l'œil attentif et l'oreille attentive.
Vous êtes arrivé de refuser un client parce qu'il avait, entre guillemets, des symptômes suspects ?
Non, j'ai refusé personne. J'ai pris tout ce qui était possible de prendre. Actuellement, on va pas se mentir, l'activité actuellement, elle est proche de zéro. Et les taxis ont déconfiné, mais pas les clients, à cause du télétravail et de la crainte d'attraper ce virus. On fait beaucoup plus d'heures pour tenter de faire un maximum de chiffre d'affaires. Mais comme je vous ai dit, le chiffre d'affaires actuellement, il est proche de zéro. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami. Aujourd'hui, il est obligé de laver des trains, désinfecter les trains de banlieue pour que les gens puissent aller travailler. Alors que lui, il est transporteur de personnes, il ne peut pas aller travailler parce qu'il ne fait pas suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir travailler dignement. Mais de le voir habituellement en costume cravate en train de travailler dans son taxi et que là, il est en train de nettoyer les trains pour que les gens puissent aller au travail, ça me fait mal parce que c'est un ami.
Est-ce que là, ça va pas mieux depuis que les terrasses de cafés, de restaurants ont rouvert ?
Alors là, ça va un peu mieux depuis 2 jours. Donc effectivement, il y a un petit regain.
Vous gardez espoir pour l'avenir quand même ou pas ? Vous êtes vraiment trop inquiet là ?
Non, alors, je suis d'éternel optimiste. Et moi, quand j'ai transporté, les aides-soignants, les médecins, les personnes des EHPAD, pour moi, sont de vrais héros. C'est pas Bruce Willis ou Batman qui a sauvé le monde. Hein. Là, on n'est pas à Hollywood. Là, c'était réel. Et eux, toutes ces femmes et ces hommes, mais principalement des femmes, se sont battues et ont été au travail malgré tout. Si elles ont pu faire ça pour pouvoir vivre et en même temps être utiles à la nation, Bah, nous, on peut tous le faire. Je pense qu'ensemble, on peut tous réussir à vaincre cette crise sociale et économique, et sanitaire, bien sûr.
Merci beaucoup Antoine Lee pour ce témoignage de ce chauffeur de taxi, le paléo-anthropologue Pascal Pic, qui est toujours en ligne avec nous. Vous avez entendu ce chauffeur de taxi, Pascal Pic. Il faudra savoir se souvenir de tous ceux qui ont mouillé la chemise, ne pas être ingrat.
Il est formidable et ça montre bien toute l'erreur qui a été commise, les erreurs autour des masques. Les gens ont tous accepté, consenti au confinement. Quasiment, avec de rares exceptions. Et on voit bien le bon sens, la réactivité, la prise de conscience. Et d'avoir eu cette communication, comme ça a été évoqué, complètement imbécile autour des masques, montre bien que pour une partie de nos élites, il y a une incompréhension totale de l'intelligence, de l'adaptabilité, de l'empathie et de la conscience que toutes les personnes, chauffeur de taxi est formidable. Et je crois que là aussi, c'est une leçon de politique et de démocratie.
Faudra se souvenir donc de tous ces précarisés qui risquent de payer le prix fort, sans parler des jeunes, puisqu'ils auront du mal à trouver du travail. On sait bien que le chômage, là, est en train d'exploser, Pascal Pic.
Ben, évidemment, et ces jeunes qui sont souvent dans des métiers. Mais écoutez, c'est compliqué, ces jeunes, mais c'est comme notre chauffeur de taxi. Je pense que c'est pas par optimisme, ils vont réagir, c'est ça la jeunesse, bien sûr. Et regardez, le télétravail dont on a beaucoup parlé, il faut pas que ce soit pensé comme une commodité qui permet d'éviter d'avoir trop de surface de bureau ou les gens qui se déplacent, etc. Il va falloir retrouver, qu'on dépasse l'organisation du travail que nous avons hérité de la première révolution, enfin, du premier âge des machines pendant 2 siècles. C'est-à-dire, il fallait se rendre au travail, les moyens de production étaient sur place, il fallait venir, il fallait repartir. Non, aujourd'hui, surtout avec la poussée de l'intelligence artificielle, dans tous les métiers, il va falloir repenser en termes de tâches. Quelles sont les tâches qu'on peut faire mieux chez soi, les tâches qu'on peut faire avec les autres. Et puis surtout, ça nous renvoie au fondement de nos sociétés. Vous avez évoqué avec amabilité mes compétences autour des singes. Il se trouve que les chimpanzés et nous, les humains, nous sommes des sociétés de fusion-fission. C'est-à-dire que nous nous séparons pour faire des choses et nous réunissons pour en faire d'autres. Faire du télétravail, parce que là, effectivement, on voit bien que ça va s'accentuer. Ce n'est pas transposer au domicile ce que l'on fait dans l'entreprise. C'est complètement idiot. Si on fait ça, ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui est important, c'est réfléchir en termes de tâches. Et il faut qu'au sein des entreprises, quelle que soit leur taille, soit organisé au moins 2 fois par semaine des réunions qui sont nécessaires pour le travail, mais aussi pour la convivialité, le bien-être ensemble, pour des événements culturels, gastronomiques, œnologiques, tout ce que vous voulez. Donc, d'une manière extraordinaire, ce qu'on va retrouver après ces 2 siècles de révolution industrielle qui ont structuré nos sociétés et qui ont structuré évidemment nos emplois du temps, des fondements que nous avions un petit peu oubliés et qui sont absolument essentiels évidemment dans la diversité, la pluralité de nos vies professionnelles, amicales et bien sûr familiales.
Je salue votre optimisme.
Je pense qu'ils vont vite retrouver tout cela.
Je salue votre optimisme, Pascal Pic. Après le journal de 19h, on passera à tout à fait autre chose, hein, à la conquête de l'espace. On parlera d'Elon Musk. Je crois que c'est quelqu'un qui vous intéresse.
Ah, ben, il est passionnant. Parce que, voilà. Et là, ça montre bien quelles sont les tensions qu'il y a dans cette Amérique. Le rêve américain n'est plus celui que nous apportaient les GI, qui se sont sacrifiés il y a exactement 66 ans pour nous libérer, hein. Ce qui se passe en Amérique, vous voyez, Elon Musk, il est d'origine sud-africaine. Il a eu une bourse, il sort pas d'un milieu aisé, pas d'un milieu pauvre, mais pas d'un milieu aisé. Il a une bourse pour étudier au Canada, où était sa mère. Et ensuite, il a des bourses, il va à Stanford. Et, il est extrêmement créatif. Donc là, c'est le rêve américain où ce pays offre la possibilité aux gens qui ont du génie, qui travaillent, qui ont de l'ambition, de réaliser des projets absolument extraordinaires, qui ne seraient pas possibles en Europe, d'ailleurs, je le précise malheureusement, et même pas en France. Mais d'un autre côté, vous avez toutes ces populations qui sont délaissées. Et l'Amérique est un paradoxe, effectivement, où les populations qui sont installées depuis un bout de temps sont délaissées, les Amérindiens, les Noirs qui sont arrivés avec l'esclavage, etc. Et d'un autre côté, vous avez ces personnes qui proposent des visions complètement nouvelles de l'avenir et qui révolutionnent l'industrie, hein, les voitures Tesla, de révolutionner effectivement les vols spatiaux. Et c'est quand même passionnant parce que, je vais revenir, ça va vous surprendre peut-être, sur l'affaire des masques.
Pas trop longuement, hein, parce qu'on y reste 40 secondes.
Vous en avez parlé. Ouais. Je veux dire, ça montre aussi que on a Il y a la NASA, mais on peut faire confiance aussi au génie des entreprises. Il y a trop de discours anti-entrepreneurial dans notre pays qui est confondu avec le capitalisme ou le néo-capitalisme. Je crois qu'il faut repenser nos sociétés dans ces, dans toutes ces potentialités extraordinaires entre ce que peuvent apporter les gouvernements, les agences nationales, les systèmes comme on lit et les entreprises. Et Elon Musk, pour ça, me semble extrêmement intéressant.
Merci beaucoup Pascal Pic pour ces trois quarts d'heure passés en notre compagnie. Je renvoie en tout cas sur votre dernier livre, Sapiens face à Sapiens, ça c'est chez Flammarion. Il y avait aussi l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur chez Odile Jacob, et qui va prendre le pouvoir, les grands singes et les hommes politiques ou les robots, également chez Odile Jacob. Encore merci à vous, et tout à l'heure, donc merci. Le téléphone sonne sur l'espace. N'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000.